Les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Dakar, 13 heures à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. En Somalie, au moins 11 personnes tuées et 16 blessées ce jeudi dans une puissante explosion près d'un restaurant situé sur une artère très fréquentée au centre de Mogadiscio, la capitale. Le bilan que nous avons pu confirmer jusqu'ici est de 11 morts et 16 blessés, mais les pertes pourraient être plus importantes, a déclaré Abdul Kadir Abdirahman Adan, directeur du service d'ambulance Amin, dans la capitale somalienne. En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika continue de perdre le soutien de certains de ses fidèles. L'ex-premier ministre Ahmed Ouya a réclamé la démission du président algérien. Le point avec Abdourahmane Dia.
Cible d'une contestation sans précédent à la suite de sa candidature à un cinquième mandat, le président Bouteflika est toujours en fonction. Il peut refuser de démissionner et le Conseil constitutionnel, dont le président est un autre proche, est le seul à pouvoir enclencher la procédure prévue par l'article 102 de la Constitution permettant d'écarter le président en cas de maladie grave et durable. Hier, le secrétaire général du RND, Ahmed Ouyaya, qui a été trois fois Premier ministre, a appelé à la démission du président pour, dit-il, faciliter la période de transition. Le patron de la puissante Union nationale des travailleurs algériens, Armel Majid Sidi Saïd, a salué l'appel du chef d'état-major de l'armée à écarter le président. Le général Ahmed Gaïd Salah, qui était un autre soutien indéfectible, a proposé mardi la mise en œuvre de l'article 102 qui organise l'intérim en cas de démission du président. Ces efforts de mise à l'écart du chef de l'État ont eu très peu d'effet sur la contestation. Hier encore, des centaines de chercheurs se sont rassemblés sur le parvis de la Grande Poste, épicentre de la contestation à Alger, pour chanter « Il y en a marre de ce pouvoir et de tout le système ».
Soudan, un tribunal d'exception soudanais a condamné mercredi trois manifestants, dont deux étudiantes, à 6 mois de prison pour avoir participé le même jour à un rassemblement anti-gouvernemental dans la ville d'Omdurman, près de la capitale. C'est ce qu'a annoncé l'avocat des intéressés. Face à la persistance de la contestation populaire contre son régime, le président Omar al-Béchir a décrété le 22 février l'état d'urgence dans tout le pays, interdisant les rassemblements non autorisés et instaurant des tribunaux d'exception pour juger toute personne ayant violé l'état d'urgence. Depuis, les manifestations antigouvernementales se sont raréfiées. Violence au Mali maintenant, l'émissaire spécial de l'ONU dans le pays, le Tchadien Mahamat Saleh Anadif, réitère la nécessité d'aider les Peuls et les Dogons à vivre ensemble. Il a lancé cet appel hier dans une interview à des confrères consacrée à la tuerie du 23 mars qui a coûté la vie à au moins 160 habitants du village Peul d'Ogassogou dans le centre du Mali. Des détails avec Jean-Roger Bion.
Une enquête de l'ONU est en cours sur ce massacre commis par des chasseurs présumés Dogons. Sans se prononcer sur la responsabilité de la tuerie, l'émissaire de l'ONU et responsable de sa force de casque bleu dans le pays, la MINUSMA, a estimé que l'inacceptable avait été atteint et qu'il fallait l'arrêter. C'est le terrorisme, le djihadisme, l'extrémisme qui a propagé ce virus comme du cancer au sein de ces paisibles citoyens qui ont commencé à s'entretuer, a aussi estimé l'ancien ministre tchadien des Affaires étrangères. Depuis l'apparition il y a 4 ans dans le centre du Mali du groupe djihadiste du prédicateur Amadou Koufa, recrutant prioritairement parmi les Peuls, traditionnellement éleveurs, les affrontements se multiplient entre la communauté Peul et les ethnies Bambara et Dogon, pratiquant essentiellement l'agriculture, qui ont créé des groupes d'autodéfense.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Politique en République démocratique du Congo, à une semaine du premier voyage du président de la RDC, Félix Tshisekedi, ici aux États-Unis, le député Martin Kabuya, membre de la coalition du Front commun pour le Congo FCC, allié au chef de l'État congolais, a de passage dans notre rédaction à Washington parlé des préparatifs de cet événement. Il a aussi évoqué la brûlante question de la corruption électorale et des sanctions américaines à l'endroit des dirigeants. Jean de la CENI, la Commission électorale nationale de la RDC. Eddy Sango a reçu le député Kabuya dans nos studios un extrait des déclarations du parlementaire congolais.
Nous attendons que ce qui avance, ce qui acquise puisse amener le problème. C'est vrai que ça s'est passé de la manière que ça s'était passé. Le procureur général près de la Cour de cassation avait tiré la sonnette d'alarme en son temps pour que les élections, que ce soit celles des sénateurs ou de gouverneurs de province, ne soient pas organisées le temps que son office puisse mener des investigations. Bon, il n'a pas été entendu ou il n'a pas été écouté par les pouvoirs organisateurs des élections. Mais aujourd'hui, on s'est rendu tous à l'évidence que la démarche du procureur général près de la Cour de cassation était opportune et qu'il fallait lui donner le temps de mener des investigations à gauche, à droite pour mettre hors d'état de nuire et les corrupteurs et les corrompus. Mais hélas, tu sais, au pays, c'est souvent après coup qu'on se rend à l'évidence qu'on a mal fait. Mais aujourd'hui, tout le monde est d'avis que ça a été très mal organisé parce qu'il y a eu des pratiques répréhensibles à ciel ouvert. Et ces pratiques sont à condamner. La corruption ne peut pas, de aucune manière, construire une société. La justice devra faire son travail.
Le président Félix Tshisekedi fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Et c'est pour ça que les États-Unis les soutiennent dans cette politique. Ne devrait-il pas sanctionner ?
Depuis qu'il est arrivé il y a 2 mois, il a fait des gestes extrêmement positifs, ce qui fait qu'il est attendu ici, à Washington DC, pour être reçu par le président Trump le mercredi, juste pour l'encourager d'aller de l'avant, qu'il ne puisse pas avoir peur. Il a avec lui le soutien de son peuple, avec le peuple Bétou.
Vous-même, vous êtes député, vous étiez parmi ceux qui ont voté. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu effectivement corruption ou c'est juste des suppositions ?
La crise au pays ne date pas d'hier.
Vous avez des racines dans l'UDPS. Aujourd'hui, vous faites partie du FCC et ça pose un problème. Depuis le 24 janvier, il n'y a pas encore un gouvernement. On dit que le nom du formateur du gouvernement a été remis. Mais qu'est-ce qui bloque aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on peut nommer le formateur, mais il ne mettra pas le gouvernement en place tant que nous n'aurons pas les bureaux définitifs de l'Assemblée nationale. Mais je me dis, ma foi, la semaine prochaine, nous devrons mettre en place le bureau de l'Assemblée nationale parce qu'il y a eu déjà quelques bribes d'informations comme quoi des consultations sont en cours pour savoir qui va présider aux destinées de l'Assemblée nationale, qui va faire quoi.
Consultations, mais aussi tiraillement, les FCC continuer à clamer sa majorité dont vous faites partie. Le FCC tient à ce qu'on installe les sénateurs, mais l'UDPS, les cache, n'est pas de cet avis.
L'UDPS, l'UNC et les autres partenaires du FCC, nous formons tous la coalition de gestion, ce qui peut, à mon sens, être opposition aujourd'hui, qui est en train de se lazarder, c'est dans la moucaille.
Le député Martin Kabuya de la coalition FCC en RDC dans nos studios ici à Washington. Au Burundi, les 3 jeunes filles âgées de 14, 15 et 17 ans sont finalement sorties de la prison pour mineurs de Ngozi dans le nord du pays. Les parents saluent le geste de la ministre burundaise de la Justice, mais demandent aussi que ces écolières retournent à l'école. Leur détention pour avoir gribouillé la photo du président burundais Pierre Nkurunziza avait provoqué un tollé. Le point avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Après 6 jours de détention dans les provinces de Kirundo et Ngozi au nord et nord-est du Burundi, Élise Consolat et Micheline sont enfin libres de la prison pour mineurs de Ngozi. Ils ont directement été conduits dans la province. Le procureur près de la cour d'appel de Ngozi a indiqué que les investigations judiciaires continuent, mais l'avocat des 3 écolières, Prosper Yanzira, demande leur acquittement car aucun indice sérieux de culpabilité n'est perceptible. Il indique que ces livres passaient de main en main et qu'il est difficile de pointer du doigt les élèves qui auraient gribouillé les photos du président Pierre Nkurunziza. Parents et élèves n'ont pas caché leur joie lorsque le procureur, près la cour d'appel de Ngozi, province natale du président burundais, a libéré provisoirement les 3 écolières. Les associations pour la défense des droits des enfants demandent que ces enfants retournent immédiatement pour suivre leur cursus scolaire. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Et pour terminer, Ebola en République démocratique du Congo, une étude publiée aujourd'hui dans la revue médicale de Lancet estime que les rumeurs et la défiance envers les personnels de santé ont sans doute retardé la lutte contre l'épidémie dans le pays. Seulement 1/3 des quelques 1000 personnes interrogées à Beni et à Butembo dans l'est de la RDC ont dit faire confiance aux autorités locales pour les aider pendant l'épidémie. Plus d'un quart ne croit même pas en l'existence d'Ebola et 36% pensent que la maladie a été créée pour déstabiliser le pays. L'épidémie en cours est la deuxième la plus meurtrière après celle qui a frappé l'Afrique de l'Ouest en 2014-2016 et qui a fait quelques 11 300 morts. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.